la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission aujourd'hui entre art, littérature, peinture, avec Anne Slasik. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors nous nous connaissons depuis longtemps maintenant, grâce à la galerie Adou de Nabias qui a malheureusement fermé depuis. Et puis on s'est revus au musée Pape d'Alès, on s'est revus au Carré d'Art. Et là nous sommes aujourd'hui à l'espace Dominique Bagouet à Montpellier. Je signale qu'il est gratuit, donc on peut venir et revenir. Et c'est un petit espace en longueur, mais je trouve qu'on pénètre dans votre univers et vous l'avez. Elle s'appelle, cette exposition, avec elle, au pluriel, Anne Slasik et 40 poétesses. Donc, vous êtes toujours dans ce lien papier, peinture, poème. Et là, les femmes, elles vous ont attiré, vous les rencontrez depuis longtemps. C'est le contexte femme, c'est le contexte MeToo ou c'est le printemps des poètes?
C'est, je ne suis pas une féministe forcenée. Je considère qu'il y a un travail, il n'y a pas de peinture de femmes, il n'y a pas d'écriture de femmes, mais il y a des femmes qui peignent, qui travaillent, qui font de la peinture, des femmes qui écrivent aussi. Et cette exposition, elle est venue un petit peu d'une autre exposition d'un poète homme, Frédéric Jacques Temple, qui est un poète de Montpellier, qui avait présenté une exposition entourée de ses amis peintres. Et à l'époque, j'avais fait remarquer, sous forme un peu de boutade, qu'il n'y avait que des hommes, en fait. Et donc, Madame Agnès Robin, l'adjointe à la culture de Montpellier, a pris un petit peu, m'a dit « Oh, on pourrait imaginer une exposition avec vous
que des femmes.
Et les femmes poètes avec lesquelles vous avez travaillé depuis 40 ans, puisque ça fait 40 ans que je peins et que je collabore avec des poètes. » Et donc, j'ai commencé à compter ce que j'avais jamais fait, les femmes poètes, les poétesses donc, avec lesquelles j'avais travaillé. On dit 40, en réalité, il y en a 47. Et donc, il y avait matière à montrer quand même tout cet ensemble de livres peints et de peinture.
Alors ce lieu, hein, j'insistais sur ce lieu qui est magnifique, qui est petit, mais qui est magnifique. Il vous a inspiré un accrochage particulier. Bon, je sais que dans ces lieux, il y a des contraintes, mais vous avez bien utilisé cet espace entre la présentation des livres peints, les toiles sur châssis, les toiles sur papier. Vous êtes contente.
Oui, en fait, il n'est pas si petit cet espace, puisque j'y montre quand même des peintures de 1,60 m par 3 m, des très grands formats, alors qu'au musée Pape d'Alès, il y avait beaucoup de salles, mais on ne pouvait pas présenter des très grandes pièces, même s'il y avait, je me souviens, 3 ou 4 grands formats.
Mais je dis petit parce qu'en fait, il n'y a qu'une pièce.
Voilà, c'est la contrainte du lieu. C'est difficile, mais c'est aussi intéressant. L'idée pour moi était de faire plonger le public dans des sensations, dans des choses sensorielles au niveau de la couleur. Oui. Donc il y a un choix de grands formats, bleus, dans les verts, avec des violets. Mmh. Et les gens sont, depuis 2 mois, à l'ouverture de l'exposition, sont très sensibles, parce que j'ai eu pas mal d'échanges depuis. C'est réussi, je crois. On entre dans l'espace d'une couleur, dans l'espace sensoriel d'une couleur. Et dans l'accrochage des livres, il y a des relations par la couleur. Il y a un bleu qui va renvoyer à une œuvre, parce que la peinture, elle est dans les livres aussi. Donc, il y a un vrai dialogue, finalement, entre les livres peints sous vitrine et les grandes peintures.
Mais il est vrai qu'on est attiré par le mur de droite. Est-ce que c'est les bleus? Est-ce que parce que je suis droitière, on est attiré par la droite? Et puis peut-être parce qu'il y a un tableau à la fin qui est des Anne Galante, alors que sur le mur de gauche, il n'y en a pas. Donc c'est peut-être l'œil ou nos émotions, notre sensibilité. Chacun le ressent.
Chacun appréhende et circule dans cet espace de façon libre, en fait, en allant de la vitrine, en s'approchant des toiles, puisque moi, je souhaite toujours qu'on regarde les œuvres de très près, mais en s'en éloignant aussi. Mm-hmm. Donc, ce sont des murs de peinture, quand même. Donc, il y a une présence physique de ces peintures à l'huile avec les pigments qui sont qui irradient quand même, voilà, je crois.
Hein. Oui, on retrouve vos couleurs préférées, mais je sais qu'au pub, il y avait des pivoines magnifiques, il y avait du rose, il y avait du fuchsia. Là, c'est un choix dans le catalogue
resserré.
Également, un choix resserré. Mais ce vert, ce bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est le liquide amniotique, c'est quoi ? C'est
alors,
ce qu'on veut.
c'est la lecture, Umberto Eco a écrit l'œuvre ouverte, donc voilà, l'œuvre est ouverte, la lecture est ouverte. Moi, je ne peins pas des paysages, ce sont des paysages de peinture, c'est une peinture abstraite, avec beaucoup de fluidité, de matière, qui évoque l'œuf bleu, on peut évoquer le ciel ou la mer, évidemment. C'est la série des grandes toiles présentées, là, des trois grands formats de 1,60 m par 3, s'appelle Écho des Lumières. Donc c'est plutôt, c'est aussi un travail de la pensée. Écho des Lumières, j'ai fait une très grande exposition au musée de Port-Royal des Champs, voilà, berceau du jansénisme. C'est pas vraiment les lumières du 18e, mais on commence, c'est le travail de la pensée. Racine et Pascal y ont vécu. Et c'est aussi un hommage à un peintre que j'aime beaucoup, qui est décédé, Marc de Vade, qui a peint une série d'échos des lumières. Ces échos des lumières renvoient à l'idée de la lumière, mais aussi à un travail de la pensée. C'est quelque chose d'important pour moi.
Oui, la pensée, parce qu'on peut... Chacun est libre, mais notre pensée travaille, et plus ou moins consciemment. On n'est peut-être pas obligé de formuler ce qu'on ressent, ce que l'on voit, et c'est ce que vous aimez. Alors que le livre, l'illustration des livres de poètes, pour vous, c'est plus une contrainte ou c'est une d'adhérer au texte?
En
d'illustrer
fait,
le texte.
En fait, moi, j'écris pas moi-même et j'ai toujours dit, en 40 ans, 450 livres peints, c'est quand même
c'est
important.
Pas mal, hein,
voilà, c'est important. Et je dis toujours que j'ai pas besoin pour peindre de peindre des livres. Donc, si je travaille avec des livres peints, avec des poètes, avec des textes, c'est le rapport au texte qui m'intéresse.
Oui.
L'objet livre m'intéresse, l'espace, le volume qu'il offre, l'espace qu'il propose.
Mais j'aime bien cette forme accordéon. Là, vous n'avez pas pu les déplier. Je me souviens qu'au carré d'art, ils étaient accrochés au plafond.
Absolument.
C'était absolument extraordinaire.
Mais le carré d'art de Nîmes a prêté pour cette exposition une vingtaine de ces livres manuscrits peints réalisés par des poétesses, donc, qui sont présentés sous vitrine. Mais voilà, selon toujours le même principe d'une rencontre, d'une couleur sur une boîte, d'un travail d'écriture dans ce papier velin d'arche, qui n'est pas que du manuscrit, et d'une réaction de la peintre, de moi, donc en fonction de cette lecture-là, et de travail de peinture dans le livre, et puis du partage qui en résulte en 8 pour chacun, et une égalité de travail entre la peinture et l'écriture.
Mais la poétesse a... un droit de regard, elle peut vous faire changer. Non, une fois que vous avez peint,
c'est un aller-retour.
C'est
parce
un aller-retour.
Il y a une rencontre, comme dans la vie. Les gens m'ont interrogé hier, j'ai fait des rencontres hier avec des publics. Mais comment on arrive à réaliser un livre? J'ai dit, comme dans la vie, on se rencontre ou pas. S'il y a un désir partagé de se rencontrer, il faut un va-et-vient. C'est-à-dire que les poètes, en général, quand même, je les ai lus. Voilà. Et eux, ont regardé ma peinture. Donc, on ne parle pas de rien. Enfin, ils sont venus dans mon atelier, en général. Donc, il y a un vrai échange. Et puis en général, c'est moi qui commence, c'est-à-dire en fonction de la rencontre, j'ai une sensation de
quelque chose,
couleur.
Une couleur.
C'est-à-dire la boîte, et je propose une couleur. C'est-à-dire on part d'une couleur d'abord, avec un velin d'arche qui va être vierge, et ensuite le poète, moi je ne demande pas à lire le texte avant. Il va écrire son texte, et c'est très important, ce n'est pas du manuscrit. Il y a un engagement dans un travail d'écriture.
C'est comme une écriture automatique.
Mais là, mais ça peut prendre 4 heures, mais ça peut prendre 3 ans. À partir du moment où on entre dans un processus d'écriture, ça prend un certain temps. Et je ne donne jamais aucune consigne, ni d'avec quel outil on va travailler, ni comment le texte va s'inscrire sur le papier, etc. Et je lis le texte quand on me remet mes exemplaires. Et à ce moment-là, je peins. La lecture du texte, c'est le déclencheur du travail de la peinture, en fait. Il y a une espèce d'aller-retour, comme ça, partagé.
Et la poétesse, une fois qu'elle voit ce livre illustré, enfin, la poétesse ou le poète, hein, on va pas faire... Là, c'est 40 poétesses, mais il y a beaucoup d'hommes poètes aussi. Quand la poétesse voit le livre illustré, elle a... Ça lui donne un autre écho, ça lui donne... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, c'est... J'y avais pas pensé. Bon, c'est pas, elle n'est pas peintre, encore que des poétesses sont peintres parfois.
En fait, la poétesse, c'est où on va. On réalise un livre ensemble. Donc, il y a une attente quand même du résultat de l'objet livre et du partage qui en résulte. Donc, en général, il y a une inquiétude de leur part. En général, j'ai remarqué, parce que je l'ai fait travailler sur écrire sur un velin d'arche 300 grammes, qui est mon papier obligatoire. Je ne travaille pas sur un autre papier. Et c'est un papier quand même qui est un petit peu rugueux, qui résiste, qui n'est pas le papier habituel sur lequel on écrit. Donc il y a une hésitation, et puis il faut spatialiser son texte, occuper l'espace qui est un volume, avec un recto et un verso. Certains poètes sont très à l'aise avec ça, d'autres sont très retenus, mais aucun livre est pareil en fait, et c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est intéressant.
C'est une vraie aventure.
Et là, bon, je vous dis qu'on s'était rencontrés aussi au PAB, où le musée Pierre-André Benoît est connu aussi pour ses livres minuscules. Là, vous avez montré que des livres, je dirais, de format assez normaux.
En fait, on n'avait pas trop le choix, parce que je pouvais montrer 20 fois plus de livres, de correspondances que ce que j'ai montré là. Et il y avait 47 poétesses à représenter dans cette exposition. Oui, donc on a parfois mis un seul livre à peine replié pour que chacune soit présente dans les vitrines. Oui. Et la place nous a manqué. Mais bon, les gens, peuvent circuler. Mais on aurait pu déployer beaucoup plus, évidemment, ce projet. Hein. Ça se fera peut-être ailleurs.
Ailleurs, mais vous n'arrêtez pas. Je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes partout. Mais le livre minuscule pour vous est encore plus contraignant ou au contraire est encore plus inspirant?
Le livre minuscule, c'est vraiment Pierre-André Benoît. C'est ce rapport à des textes, à des supports, à des objets qui m'étaient proposés tels quels par Jean-Paul Martin, notre éditeur qui est hélas parti, et qui me proposait un espace qui était déjà créé. Okay. Alors que la collection des manuscrits peints, finalement, c'est moi qui ai inventé l'espace et le support. Et l'intérêt de la collection, c'est que c'est chaque fois la même chose. C'est-à-dire cet accordéon de papier de 20 cm par 80 replié, et qui est le même pour chacun. Et à partir de cette contrainte-là, on voit toutes les différences et les inventions qui peuvent venir sur le travail, en fait.
Alors, les personnes qui nous écoutent, je crois qu'il faut bien dire que cette exposition est très équilibrée entre vos peintures, entre les grands formats, et puis les livres, je veux dire. Et j'entendais les personnes à l'entrée qui disaient, il y a des gens qui reviennent, en plus c'est gratuit. On ressent beaucoup de choses, et on parlait des livres, moi j'étais très attirée par Ingres. Tout de suite je me suis dit, Ingres, parlez-nous de cette,
dans l'exposition, on a mis en avant quatre poétesses historiques, qui sont Marceline Desbordes Valmore, Anise Koltz, poétesse luxembourgeoise, Marguerite Yourcenar et Ethel Adnan, qui est devenue une grande star de la peinture. Mais moi, quand je l'ai rencontrée en 1997, j'ignorais qu'elle peignait. Et c'est Ethel, on a réalisé donc un ensemble de 16 livres manuscrits peints dans la collection. Et Ethel m'a dit, mais je peins aussi. Alors j'ai dit, Ethel, vous allez écrire et peindre d'un côté, et je vais peindre au dos du livre.
J'apprécie beaucoup.
Mais pour revenir à Ingres, c'est le livre que j'ai réalisé pour les éditions Le Renard Pâle, Patricia Dupuis. Puis, c'est une collection qu'elle a qui s'appelle Les Garces, peinture de femmes, écriture de femmes, et c'est une collection. Et donc, elle m'a proposé ce livre, ces textes de Marceline Desbordes Valmore, poétesse du 19e, adulée par André Breton, Louis Aragon et de très nombreux poètes, Verlaine, etc. Apollinaire, elle aimait beaucoup. Et donc, je me suis dit que Ingres était son contemporain. Et donc, j'ai fait Patricia Dupuis voulait que je fasse quelque chose de spécial pour ce livre. Et donc, j'ai fait quelque chose de un peu figuratif.
Avec
la baigneuse de Valpinson, l'Olympia. Et mon fils, à l'époque, m'a dit, mais en fait, maman, tu sais dessiner, quand il a vu ce livre. Ça, c'est la blague. Blague.
Donc, l'abstraction, c'est... Mais vous ne dessinez pas, en fait. Pas beaucoup.
Est-ce que peindre des papiers et écrire avec ses mains, avec l'huile, pour moi, c'est dessiner. C'est dessiner, mais on n'est pas dans la représentation du réel, d'une image
c'est
du réel.
C'est peut-être pour ça que la tête dingue, enfin, que ce que j'appelle, m'a attirée.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, les deux tableaux dont je parlais à l'entrée à droite qui se répondent, ce sont les Indes galantes. Et on a toutes les deux énormément aimé ce ballet de Clément Cogitor sur les Indes galantes, le film qui a été fait après. Et on va écouter la danse des sauvages. Sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Anne Slasik à l'espace Dominique Bahou-Gouet à Montpellier. Vous avez jusqu'au 7 avril pour venir voir cette très belle exposition qui s'intitule « Avec elle, Anne Slasik et 40 poétesses ». Nous revenons un peu sur les Indes galantes. Comment deux grands tableaux, comment vous avez procédé ?
En fait, c'est une série, ces deux tableaux appartiennent à une série de 5 toiles. Moi, j'ai eu un choc vraiment émotionnel en voyant la petite vidéo de Clément Cogitor, donc quand il a eu le prêt du plateau de l'Opéra Bastille, 4 heures, et où il a mis cette danse des sauvages de Rameau, qui est une musique baroque très très belle, avec des danseuses de bebop black, belge. C'est un choc de culture et même d'une intelligence prodigieuse, ça donne une énergie folle. Et j'ai décidé de peindre une série de toiles, parce que moi je suis un peintre, un hommage à ces Indes galantes aussi. Donc j'ai un petit peu échangé avec Clément Cogitor, et puis après j'ai eu la chance de voir, puisqu'il a eu la commande de l'opéra dans son entier à l'Opéra Bastille, où je trouvais qu'il avait renouvelé vraiment l'opéra en faisant travailler Bintou Bentele, une chorégraphe black, c'était la première fois quand même à l'opéra.
Il faut voir ce film, assez... si on ne l'a
oui,
pas
mais
vu.
Oui, on peut le voir sur Arte, Et donc j'ai peint tout au long d'une année cette série de toiles qui avec l'énergie donnée par cette musique et ce travail, donc c'est un petit peu un hommage. hommage. Et ce sont mes Indes galantes. Donc, il y en a deux présentes dans cette exposition, les deux toiles verticales.
Oui, et qui nous guident quelque part. Et donc... Et puis, j'aimerais qu'on parle un peu technique, parce que pour vous, ça semble évident, mais j'ai été très, très accrochée aussi par cette peinture où il y a des stalactites. Et comment vous faites? Parce que, bon, vous peignez à l'huile, on a l'impression que vous avez gratté, mais pas du tout. En fait, vous jouez sur, comment on appelle ça, la gravité, en fait.
En fait, j'aime bien dire que je travaille dans la pente du tableau, c'est-à-dire, c'est assez physique, parce qu'il y a des très grands formats. Donc, je travaille au sol, sur une toile mouillée, très tendue au dos. Et la peinture, il y a très peu de pinceaux dans mon travail. La peinture est déversée, elle se promène à la surface de la toile. Et c'est un travail sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a un travail de stratification de la couleur avec le temps. On peut revenir plusieurs semaines après sur une grande toile, remettre de l'essence et la matière bouge. Alors que l'acrylique est une matière qui va se déposer et vous allez déposer des couches qui finalement ne vont pas s'interpénétrer les unes avec les autres parce qu'il y a un temps de séchage extrêmement rapide. L'huile, moi je broie mes pigments, c'est le pigment broyé à l'huile de lin. Et avec, je déverse énormément d'essence sur les toiles. Donc il y a cette matière liquide qui est une matière en travail.
Et la façon de le pencher, vous, au centimètre près, vous savez,
vous savez
ce qui va venir ou c'est
plus ou moins. Je travaille avec cette chose-là. Mais dans la toile dont vous parlez, L'eau et les rêves, qui est une toile de 2013, on a la sensation de stalactite, de chute, Mais en fait, il y a eu une attaque assez dure sur la toile avec des paquets de blanc, de zinc, qui ont été traversés par l'essence et qui ont entraîné la couleur. Et puis un renversement, le bleu est en bas, c'est un ciel renversé.
Non, mais parce que je pensais, vous savez, à la peinture au couteau...
Non, je ne travaille pas avec des outils comme ça.
Non, mais je me suis posé la question, parce que je sais comment vous travaillez, et ça m'a interpellée là aussi, parce que... Il y a une certaine régularité de choix de vos couleurs, mais là, ce blanc-là, c'est un peu agressif. Je ne sais pas pourquoi je suis restée devant ce blanc.
C'est une toile plus dure, peut-être, oui.
Peut-être plus.
Mais sur laquelle les enfants parlent volontiers. Elle est très inspirante pour les... J'ai assisté à des petits groupes d'enfants qui sont très, très bavards devant cette toile où ils se projettent très, très bien.
Oui, vous aimez écouter aussi les réactions des spécialistes, des adultes, mais des galeristes, mais aussi des enfants.
Ben là, on vient de passer... Je suis à Montpellier pour une semaine de rencontre avec la Maison de la Poésie de Montpellier, Jean Joubert, qui a organisé énormément de rencontres autour de cette exposition. On a plusieurs poétesses sont venues, Claudine Bouilly, Régine de Tambel, Sylvie Fabregé, Valérie Rousseau. Enfin, on a organisé, j'ai lu moi-même des textes de poétesses. Ce partenariat est formidable parce qu'on a pu entendre les voix des poétesses dans le cadre du Printemps des Poètes. Et les lieux à la médiathèque d'Émile Zola de Montpellier. Qui a été partenaire aussi à la Maison de la Poésie. Les lieux étaient pleins et il y a eu quand même une grande réception de tout cela. Donc j'en suis vraiment, vraiment très heureuse.
Et que ce soit la poétesse qui lise son texte, ça prend une ampleur particulière.
Par exemple,
parce que je sais qu'il y a des poètes, poétesses, qui n'aiment pas lire leur texte.
Moi, je pense qu'il y a une... Claudine Bouilly, par exemple, a fait une lecture de deux textes qu'elle a écrits pour mon travail, Regarde et parfois l'un d'entre nous, à la médiathèque Émile Zola, accompagnée d'une violoncelliste, Claire Mingui. Et c'était une lecture performée, c'est-à-dire avec un rythme. Il y a un travail quand même de la lecture et les gens étaient extrêmement touchés par cette lecture.
Oui, parce que la poésie, bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens attirés par la poésie, mais il y a aussi des personnes que ça rebute en disant « la poésie, c'est pas pour moi ». Et ce genre de manifestation, au contraire, avec une performance, avec de la musique...
Bien sûr. Mais lors du vernissage le 6 février, moi j'avais envie que ce soit pas un vernissage normal, entre guillemets, et que les gens partent avec un peu de poésie dans la tête. Donc on a sollicité une comédienne, Isabelle Furst, qui a fait une prise de parole au milieu du public, des textes d'Annie The Cole, de Marceline Desbordes de Valmore, de Marguerite Yourcenar et d'Ethel Adnan, et c'était magnifique. Et il y a eu une demande, on a refait ça un peu plus tard, parce qu'il y avait trop de monde. monde. Mais donc les gens sont partis au vernissage avec aussi quelques textes dans la tête. Et peut-être, on a eu un partenariat aussi avec la librairie Le Grain des Mots, qui à chacune des rencontres avait des tables de livres. Donc les gens ont acheté des livres de poésie. Donc peut-être partent-ils avec un livre, quelques mots dans la tête, et peut-être auront-ils envie, pour ceux qui n'ont pas eu accès à ces œuvres qu'on trouve rares ou élitistes, poursuivre le chemin avec les poètes et la poésie, c'est très important.
Mais je crois que c'est pour ça que les personnes reviennent, parce qu'ils doivent faire l'aller-retour entre le poème, entre l'écriture, et puis il faut le temps de digérer, de s'imprégner, et puis on a des humeurs changeantes, donc peut-être que vous disiez le tableau là, qui est peut-être plus agressif. C'est vrai que vos tableaux sont... à première vue, toujours dans une certaine douceur, mais on peut y voir les Indes galantes, c'est pas si doux que ça. Non, je l'ai là devant moi, donc c'est vrai que c'est pas si doux que cela. Donc le fait de que vous êtes soyez assimilé à la douceur ne vous gêne pas, parce que vous savez que c'est pas...
Alors je me méfie de ça, parce que la douceur, le féminin, vous voyez tout ça, les fleurs, les jardins. Donc non, la peinture c'est quand même un espace sauvage.
C'est pour ça que vous avez choisi la peinture.
Moi, plutôt que douceur, je dirais le mot apaisé.
Apaisé.
Ma peinture est c'est quelque chose qui a été intériorisé, qui est quelque chose, un appel à... On est dans un monde d'une telle violence, de toute façon, que peut-être les artistes, les poètes peuvent... on ne changera pas le monde, mais on peut quand même contribuer à apporter une forme de paix.
Et c'est pour ça peut-être qu'on revient plusieurs fois voir ces tableaux. Et je répète, l'espace Bagouet, moi je trouve, est un lieu particulier. Comme il n'y a qu'une seule salle, on n'est pas dispersé, c'est très bien. Nous avons jusqu'au 7 avril, donc venez. Vous repartez demain donc dans votre atelier de Saint-Denis, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est très grand, parce que si vous faites des grandes toiles...
Donc... Il n'est pas si grand, mais je m'organise pour pouvoir travailler. Puis je reviens à Montpellier en mai, puisqu'il y aura à partir du 3 mai une exposition à la galerie Samira Combier, qui se situe 17 rue Saint-Firmin. Voilà, qui s'intitule « Quoi l'éternité ? C'est la mer aller avec le soleil, Rimbaud ». Voilà, où je présenterai des formats de plus petits, évidemment, mais ce sera... Voilà.
Le 7 mai.
Le 3 mai.
Le 3 mai.
Tout le mois de mai, jusque début juin. C'est une exposition personnelle, voilà. Bon. Donc, je reviens à Montpellier en mai.
Eh bien, écoutez, on se reverra peut-être, alors. Merci, Anne. Et puis, chers auditeurs, venez à l'espace Bagouet jusqu'au 7 avril pour... par l'étoile d'Anne Slassik et les livres de 40 poétesses.